Et avant de lire, nous prions. Éternel, en Jésus le Christ, une grande lumière s'est levée sur le monde entier. Maintenant, par ton esprit, éclaire les Écritures que nous allons lire. Qu'elles deviennent ta parole, lumière sur nos chemins, lumière pour nos présences et nos actions en ce monde. Amen. Nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié : c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Fils unique qui est sur le sein du Père. Eh bien voilà, c'est le culte de Noël, et cette année, sans récit de naissance de Jésus, sans berger, ni ange, ni mage, sans étoile, ni crèche, sans Marie et sans Joseph, même s'il y en a eu quelques échos dans un cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Peut-être chez vous y a-t-il une crèche ? Peut-être avez-vous lu hier soir ou ce matin le récit de l'évangile de Luc ou celui de l'évangile de Matthieu ? Mais c'est avec l'évangile de Jean que nous méditons maintenant. Pas de récit, mais un poème. Pas de détails de lieu ou d'époque, mais un commencement. Et si nous cherchons une naissance, eh bien, dans le prologue, nous en trouvons au moins deux. Mais c'est très bien. C'est très bon, un Noël avec l'évangile de Jean. Ni mieux ni moins bien qu'avec Matthieu ou Luc, hein. Mais c'est très bien parce qu'ainsi, Noël ne se trouve pas concentré dans une seule forme, mais déployé pour plus d'ampleur, de variation, de résonance. C'est très bien parce qu'ainsi, nous ne sommes pas concentrés sur un seul sens de Noël, la naissance de Jésus de Nazareth, mais nous sommes également convoqués et sans transition à l'interprétation, à la quête d'un sens autre que celui d'un anniversaire de près de 2 millénaires. En effet, il est question de parole. Dès le commencement, commencement de l'Évangile, commencement de la lecture, commencement du sens. La parole, dans d'autres traductions que vous connaissez peut-être, c'est le mot « verbe » qui est employé. Au commencement était le verbe. Parole ou verbe, en général avec des majuscules, manière pour les éditeurs des Bibles de signaler en gros caractères qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle parole ou verbe. Parole ou verbe traduisent un terme grec qui ne nous est pas inconnu. Logos, nous le connaissons parce qu'on le trouve dans tous les termes avec log, dialogue, prologue, et aussi ou alors avec logis, géologie, biologie et logique. Car justement, logos ne signifie pas mot, il est beaucoup plus vaste, il désigne la parole et ce qui la constitue comme parole. Et ce qui constitue une parole comme parole, c'est la pensée, le sens, la raison qui résonne. Logos, ça touche à la grammaire qui fait qu'une suite de mots devient compréhensible, qu'un ensemble de quêtes, d'enchaînements, de données constitue une science et que le monde dans lequel nous sommes nés fait sens. Logos est ainsi posé, installé par l'évangéliste comme au commencement. Et ce commencement n'est pas inscrit dans une chronologie, il est du même ordre que le commencement de Genèse 1 auquel il fait écho. C'est un commencement qui advient en celui ou celle qui comprend ces textes, c'est-à-dire qui les prend en elle ou en lui pour en faire le fondement de sa compréhension du monde, le socle de sa lecture et de son interprétation de son existence dans le monde. C'est cela, le commencement. Ce logos, cette parole au commencement, c'est donc ce qui rend l'existence compréhensible, ce qui lui donne sens dans un monde qui lui aussi a pris sens, selon cette parole, ce qui rend l'existence vivable. Et cela, eh bien, le poème de Genèse 1 le chante en disant « c'est bon »,« tov » en hébreu. Et cela est bon, pas dans un sens moral de ce qui est bien par rapport à ce qui serait mal, mais dans le sens du bon parce que c'est ce qui est ajusté à la vie. Et pas la vie d'une seule personne, ni d'une seule espèce, mais ajusté à la vie de tous les vivants, de tout ce qui vit. Cette parole, le prologue confesse alors quel était Dieu et en même temps qu'elle était auprès de Dieu. Ce n'est pas très précis. Il faudrait savoir. Eh bien non, on ne saura pas. Jean est imprécis comme les poètes le sont, qui laisse flotter, danser, se rencontrer des mots sans la contrainte des impératifs de définition ou de savoir. Les poètes qui laissent la place aux lecteurs qui peuvent entrer dans leurs poèmes pour continuer à faire jouer les mots entre eux à leur manière de lecteur. Cette parole construit la grammaire d'un monde permettant d'y vivre sans être disloqué par le non-sens, par l'absurde, par le chaos. Cette parole est Dieu, est auprès de Dieu, vient de Dieu, ou pour le dire encore autrement, elle est parole créatrice. Parole créatrice à laquelle sont articulés d'autres mots, particulièrement, vous l'avez entendu, le mot lumière et le mot vie. Deux mots qui rendent également compte de l'action de cette parole qui éclaire et qui illumine, et alors on y voit clair. On voit les reliefs, les chemins, les dangers. On voit qu'il y a des ténèbres, mais l'on peut s'orienter, diriger, organiser, donner forme à son existence dans le monde ainsi éclairé, ainsi orienté. Et ce n'est pas un monde parfait, idéal, rêvé. C'est le monde dans lequel les ténèbres résident encore, là où elles sont puissantes. Les ténèbres, c'est-à-dire le chaos, la confusion, la distorsion, le refus de la pensée subtile qui différencie, le refus de la poésie qui indique des possibles complètement nouveaux. Ce n'est pas un monde idéal, car cette parole toute divine qu'elle est ne s'impose pas, et parce qu'elle peut ne pas être perçue comme une lumineuse évidence. C'est donc un monde enténébré que celui dans lequel les paroles humaines n'ont plus de sens, ni plusieurs sens, mais n'importe quel sens. Nous éprouvons tous cela. Des paroles qui peuvent être retournées à l'envers de leur signification commune, réquisitionnées pour être rétrécies, capturées pour être vidées de leur sens compris par tous, pour être investies d'un autre sens qui laisse désorienter celles et ceux qui les entendent. Peut-être avez-vous lu 1984 ? Et le monde ainsi façonné, ainsi enténébré, n'est plus tov, n'est plus bon pour tous. Il peut l'être seulement pour quelques-uns et en apparence seulement. L'Évangile, lui, insiste sur le logos, parole, verbe, pour parler de création, de naissance, de vie. Et cela nous rend attentifs à nos propres paroles, paroles humaines, aux usages et mésusages des paroles humaines et ce que ces usages et mésusages révèlent de la pensée, de la compréhension, de l'intelligence du monde et de sa grammaire, de celles et ceux qui parlent. Et en même temps, le prologue nous invite à une mise en parole, parole pensée, de l'existence, de l'avenir, des possibles du monde. Et cela, de questions en doute, d'incertitude, en éclairage, et surtout, en reconnaissance, qui est bien ce que permet la lumière. La reconnaissance de ce qui est, de ce qui est là, de qui est là, pour nommer, pour aviser, pour poétiser. La reconnaissance comme exploration pour découvrir, inventer, essayer. Et la reconnaissance comme gratitude de ce qui a été donné, transmis, reçu, permis. Il arrive alors que la parole soit saisie, non pas capturée ni enfermée, mais reçue, discernée, entendue, comprise, comme on peut dire familièrement « oui, j'ai bien saisi ce que tu veux dire ». Au travers de paroles humaines, de gestes, de sensations, d'ébranlements intérieurs, d'illuminations, cette parole souffle un « c'est toi ». Et c'est bon, qui devient le point d'appui, le lieu de ressource de l'être. Et alors il y a naissance. La personne devient enfant de Dieu, née de Dieu et non d'un désir humain, née d'esprit et non de la chair, née de la parole créatrice et non d'un projet ou d'une circonstance. Une naissance dont Jésus, deux chapitres plus loin, dit à Nicodème qu'elle est naissance d'en haut ou naissance de nouveau, naissance seconde chronologiquement, mais naissance essentielle, comme une libération, comme une vocation. Noël, la nativité, c'est qu'il nous est donné à nous de naître et de devenir enfants de Dieu, cette extrême et inaltérable dignité. Et nos paroles sont appelés à en témoigner, des paroles humaines puisant à la divine parole pour communiquer à autrui un éclat, un écho de l'appel à naître. Et ce n'est qu'ensuite, dans le poème, qu'il est question de la deuxième naissance, après la nôtre, qu'il est question de ce que nous appelons Noël, mais sans aucun vocabulaire de naissance. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. Plus exactement, elle a dressé sa tente parmi nous. La parole est devenue chair. Eh bien oui, Jésus est vraiment né. Mais Jean ne dit rien de plus de cette naissance que ce devenir chair, devenir humain, un devenir délibéré, qui signale avec force l'initiative qui n'est pas celle des humains, mais celle de Dieu. Et c'est-à-dire que la parole ne marchande pas, ne balance pas, ne pose pas de conditions. Et cette antécédence et cette extériorité radicale empêchent de mettre la main sur la divine volonté de mettre la parole au monde dans l'humanité. Comme si ce devenir de chair correspondait à la réception de la parole qui fait naître les enfants de Dieu au verset précédent. Comme si elle la rendait à la fois plus sensible et plus recevable. Comme si la parole était devenue chair pour que les humains puissent devenir enfants de Dieu. Car la construction du poème permet de lire la précédence du devenir enfant de Dieu par rapport au devenir chair de la parole, à la fois comme l'affirmation qu'avant le devenir chair de la parole, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, il était déjà possible de devenir enfant de Dieu, et comme si le devenir enfant de Dieu était le but du devenir chair de la parole, les deux n'étant pas exclusifs l'un de l'autre. Nous célébrons Noël avec l'évangile de Jean, c'est-à-dire la possibilité, la permission, l'autorisation, le don de naître à nouveau, de naître d'en haut, de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes libérés, délivrés des injonctions, des identités fixées par le monde ou convoitées par chacun. Et nous célébrons Noël parce que cette bonne nouvelle est hautement partageable, parce qu'elle est éminemment désirable. Nous ne fêtons pas un événement passé qui a eu lieu à une date absolument inconnue. Nous célébrons un don, un élan, un avenir, un monde nouveau dans et malgré le réel enténébré de ce monde. Et nos paroles sont appelées à en témoigner, des paroles puisant à la parole pour communiquer à autrui un éclat, un écho de l'appel à naître. Avec l'évangile de Jean, l'émotion de Noël n'est pas celle des récits familiers qu'on entend parfois depuis l'enfance, ni celle des souvenirs de beaux Noëls passés, ni celle d'une fête rassemblant la famille et les proches, toutes émotions tout à fait légitimes. Mais elle est dans l'évangile de Jean, l'émotion de la palpitation d'un désir de vivre qui est l'écho d'un inlassable appel à devenir vivant. Donner la vie et la donner en abondance. L'horizon et le programme du prologue sont repris par Jésus plus loin dans l'Évangile, au chapitre 10, quand il dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La vie en abondance, ou la vie éternelle, ou la vie d'enfant de Dieu, il n'y a toujours pas de définition unique et précise, mais des images, des échos, beaucoup de poésie, pour évoquer la vie renouvelée par la parole. Devenir enfant de Dieu est présenté par le prologue comme une espérance déjà en cours d'accomplissement, par cette parole qui a pris chair parmi nous, sans plus de précision toujours, mais c'est non seulement un nous comme collectif et dont nous ne connaissons pas les délimitations, le nous peut-être de toute l'humanité dans laquelle la parole s'est incarnée en Jésus de Nazareth. Mais c'est aussi un parmi nous comme en nous, en chacun de nous, berceau, porteur de la parole, chacun vivant, chacun lumineux, chacun capable d'ensemencer la vie dans la vie, capable de venir au monde à nouveau tout au long des jours, chacun capable de se réjouir que d'autres soient aussi bénéficiaires de ce don. Et nos paroles sont appelées à en témoigner, des paroles puisant à la parole pour communiquer à autrui un éclat, un écho de l'appel à naître. Nous célébrons Noël pour son actualité. Noël, c'est aujourd'hui, et pas parce que le calendrier indique que c'est le 25 décembre. Nous pourrions tout aussi bien le célébrer le 15 juin. Nous célébrons aujourd'hui la grâce et la vérité venues au monde qui nous rendent vivants, qui nous rendent humains, véritables. Alors, réjouissons-nous. Bonne naissance à tous. Amen.